Bonjour, alors on est très heureux de pouvoir discuter un petit peu avec donc Valérie Mangin et Denis Bajram, à la fois au sujet de leurs œuvres respectives et d'une BD, donc Expérience Mort, à laquelle ils ont participé tous les deux. Donc, avant de parler un peu plus en détail de vos œuvres respectives, est-ce qu'on peut un peu évoquer vos parcours
C'est moi le plus vieux, j'ai commencé. Surtout le plus vieux dans la BD en fait, parce que moi, j'ai un peu traîné en maths, beaux-arts, déco, et puis, mais depuis que je suis enfant, j'ai toujours voulu faire de la bande dessinée, voire même de la bande dessinée de SF. Donc, voilà. Et donc je suis rentré chez Delcourt en 94 avec un premier album qui s'appelait Cryozone, qui est une histoire de zombies dans l'espace. Donc un récit assez avec un certain second degré, parce que les zombies dans l'espace c'est quand même pas particulièrement premier degré, mais qui était raconté de manière très premier degré, très le ton alien. Bon, il y avait quand même des poules zombies, donc on sent bien qu'il y avait une petite volonté rigolarde, mais le c'était quand même un récit voilà, assez sérieux. Alors c'était un scénario de Terry Kaito, le scénariste d'Aqua Blue à l'époque, et c'était le seul moyen que j'avais trouvé d'être édité, parce qu'on aucun éditeur ne voulait me prendre comme auteur complet, malgré mes projets fastueux et complexes. Donc, après, j'ai dû partir chez Soleil, parce que même Delcourt n'a pas eu assez confiance pour me laisser faire Universal War One. Donc, j'ai atterri chez Soleil, qui était à l'époque un éditeur montant, mais relativement méprisé, parce que trop populaire. Beaucoup trop populaire pour beaucoup. Et qui, grâce à l'Enfeust, qui avait explosé à l'époque, avec l'argent à mettre dans des cinglés comme moi. Donc il m'a fait un contrat où j'avais le droit de faire ce que je voulais, et donc j'ai raconté ce que je voulais. Et j'ai écrit à l'époque 18 tomes d'une histoire qui s'appelle Universal War. Et puis comme je ne suis pas totalement fou, je me suis dit que j'allais faire ça en trois parties. Donc la première, Universal War One, est sortie, enfin le tome 1 d'Universal War One est sorti en 98, je crois.
Voilà. Oui, déjà.
Donc oui, c'est pas. Oui, ça, on ne va pas dire combien d'années ça fait, mais c'est trop. Et j'ai eu de la chance parce que déjà Cryozone s'était très bien passé chez Delcourt. C'est aussi pour ça que Mourad Boudjelal chez Soleil m'avait fait autant la cour. Mais là, ça s'est encore mieux passé. Et voilà, donc je me suis retrouvé avec un quasi best-seller immédiatement. Ce qui m'a permis de faire exactement ce que je voulais. Donc un petit peu long, parce que j'ai pris mon temps. Je l'ai fait au mieux. Les moments où j'ai senti que j'y arrivais pas, j'ai pas forcé parce que je voulais pas livrer un livre juste pour livrer un livre. Je pensais que chaque album devait être fait pour des bonnes raisons et au bon moment. Voilà, donc j'ai mis 8 ans à terminer la première saga. J'ai fait quelques pauses, justement, entre autres avec Valérie, où j'ai fait dessiner 3 Christ, un projet conceptuel dont elle avait vu l'idée, puis le tome 3 d'Abîme, qui est quasiment l'autobiographie, même si c'est fantastique, donc qui était logique, racontant notre histoire, entre autres, de couple. Il était logique que je le dessine. Et puis, j'ai atterri chez Casterman en 2013 pour la suite Universal War 2, voilà, où je suis au tome 2 et en train de faire le tome 3, qui est en retard,
qui viendra incessamment sous peu.
Ouais, 2016, maintenant, il faut être honnête, puisque avec les rythmes de l'édition, on ne sort pas un bouquin au moment de Noël, ce genre de choses, c'est trop problématique. Et ce serait un peu prématuré de le sortir en Angoulême, donc sans doute en mars prochain. Mais ça, alors là, les dates. Sous réserve de modifications multiples. Voilà, parce que je passe pas mal de temps sur les états généraux de la bande dessinée, qui est un mouvement qu'englobe les auteurs, les éditeurs, etc., pour essayer de discuter de ce qu'est la bande dessinée aujourd'hui et de ses problématiques économiques. Et ça m'a pris un peu trop de temps. C'est une des bonnes raisons du retard. Je vais laisser la suite à Valérie, parce que les quelques autres bouquins où je suis impliqué, elle y est encore plus impliquée que moi.
Oui, donc Valérie, donc vous l'avez compris, je suis la femme de Denis Bajram, et accessoirement, je suis donc scénariste de bande dessinée, mais contrairement à lui, ça ne m'est pas venu dans l'enfance. Donc, je lisais un peu des BD, Astérix, Lucky Luke et surtout Alix, dont je vous parlerai, mais je n'ai jamais pensé à l'acte avant de le rencontrer. Enfin, j'ai une formation d'historienne, j'ai fait des études à la Sorbonne et surtout à l'école des Chartes, qui forme les conservateurs d'archives, de bibliothèques et de musées. Donc j'aurais dû être directrice des archives départementales de Nantes, par exemple.
Avant de finir à la tête d'un musée, voilà, ou d'une grande institution à Paris. Voilà.
Et donc j'ai fait une thèse, par exemple, sur la grande chancellerie de France sous Louis XVI, c'est-à-dire sur le ministère de la Justice. Vous voyez, c'était très sérieux à l'époque. Mais il se trouve qu'à l'époque aussi, je lisais beaucoup de BD, et dont une histoire de zombies dans l'espace, dont je suis allée me faire dédicacer le tome 2. Et à cette séance dédicace, j'ai donc rencontré l'auteur.
Et là,
c'est le drame, exactement. Et donc, on s'est mis en couple, et quelques temps après, il m'a dit qu'il avait une idée de série l'affrontement d'un général romain, Aësius, contre des Huns dans l'espace.
Transposition
voilà, d'histoire romaine en science-fiction. Et il m'a demandé si je ne voulais pas l'aider à réunir de la documentation pour que ce soit une histoire crédible, malgré tout.
Elle a fini par me virer.
Nouveau drame, voilà, j'ai fini par le virer. De fil en aiguille, c'est moi qui finis par faire le scénario.
S'emparer du projet, ouais.
Et ça a fini par donner Le Fléau des Dieux, qui j'ai fait aux éditions Soleil.
Et 2001, le premier tome ?
Avec Alexa Gadjic au dessin, et le premier tome est sorti en janvier 2001, oui, à Angoulême, exactement. Et heureusement pour moi, enfin heureusement ou malheureusement, ça a très bien marché tout de suite. Donc en fait, j'ai fini mes études et je suis tout de suite devenue auteur de BD, en fait. J'ai jamais exercé le métier d'historien ou de professeur d'histoire ou de conservateur. J'ai tout de suite été auteur. J'ai continué à développer les chroniques d'Antiquité Galactique ensuite en faisant Le Dernier Troyen avec Thierry Desmarais, que j'ai retrouvé longtemps après sur ma grosse série actuelle, Alix Senator, qui est le reboot de la série classique Alix, donc l'histoire d'un jeune Gaulois qui devient compagnon de César et qui vit des aventures dans tout l'Empire romain antique. Et entre-temps, donc, j'ai fait Trois Christs, dont Denis vous a parlé, Abîme aussi, qui est une trilogie aussi un peu formelle, puisque ça parle surtout de la mise en abîme, en fait, une figure de style. J'ai aussi fait beaucoup d'histoires... des histoires fantastiques et du chrony, par exemple l'Huxley, où ce sont les peuples précolombiens qui découvrent l'Europe médiévale et pas l'inverse, et donc qui asservissent l'Europe. J'ai fait Petit Miracle aussi, une histoire sur un petit garçon qui naît juste avant la Révolution française, la tête séparée du corps, et ça lui donne l'idée de la guillotine, évidemment. Et toutes sortes d'histoires comme ça.
KGB où les Russes découvrent que la Terre est bien entourée d'une sphère céleste peinte.
Voilà aussi, oui. Vous voyez un peu.
Finalement, votre passion pour l'histoire, l'Uchronie, l'imaginaire, ça permet de lier tout, finalement. Vous faites un métier qui vous permet de lier tout ça, finalement.
À l'époque, on avait résumé ça dans les discussions qu'on a eues avec Valérie, qui ont fait aussi qu'elle s'est réorientée de l'histoire vers la fiction, qui était qu'elle avait été vers l'histoire parce qu'elle adorait aussi les histoires, avec un petit H.
Peut-être encore plus, et finalement, en sortant de l'école des chartes, j'allais aller vers un poste plus administratif, en fait, que même de recherche ou autre. C'est vrai que j'allais abandonner ce qui me plaisait finalement le plus dans l'histoire.
Abandonner presque la grande histoire, déjà.
La grande histoire, déjà.
Pour être patron, quoi.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que...
les petites histoires, on n'en parle
même pas, exactement. Et c'est vrai que ce qui me plaisait le plus, c'était raconter. Donc, c'est vrai que quitte à raconter, autant devenir auteur.
Et à l'inverse, moi, je suis un passionné d'histoire depuis toujours. Et la manière dont je pense au W20, il y a un petit côté chronique du futur. Mm-hmm. Quand j'étais au festival de l'histoire de Blois, il m'avait présenté comme historien du futur. Donc quelque part, on a beaucoup de points communs.
C'est un peu le même exercice, finalement, l'histoire et la science-fiction, parce qu'on se projette dans un temps qu'on ne connaît pas
pour le décrire.
Enfin, finalement, l'histoire, on sait bien qu'on ne sait rien sur l'histoire, finalement, sur le futur non plus. Et on raconte l'histoire des gens qu'on ne connaît pas, finalement, mais dans lesquels on se projette. C'est un peu la même démarche dans les deux cas.
Et est-ce que vous avez eu un jour l'idée de faire un roman, par exemple, là-dessus, plutôt que de la BD, par exemple ?
Ah, moi, j'ai toujours eu l'impression que une bonne partie de l'univers de l'Universal War, tel que je l'ai pensé, aurait été mieux en roman, parce que j'aurais eu plus de place pour m'étaler, raconter des tonnes de choses. J'ai des tonnes d'anecdotes, ou scientifiques, ou technologiques, que j'ai pas pu mettre, parce que la bande dessinée est un art de l'ellipse, où on essaie de montrer les choses, mais finalement, on peut pas trop en dire. Mais d'un autre côté, on est tous les deux fous de bande dessinée, je pense.
C'est ça. Je vais dire qu'à l'inverse de Denis, j'ai jamais pensé faire des romans sur les histoires que j'ai finalement faites en BD, parce que l'aspect visuel est tellement important qu'on ne peut pas s'en passer. Moi, c'est vraiment, c'est mon propre à mes histoires, je ne peux pas les imaginer autrement, en fait. Ça m'en fait pour la BD, par la BD, et même dans certains cas, comme Trois Christs ou Abîme, ça ne pourrait pas être fait autrement qu'en BD, je pense.
Et en même temps, on est des très gros lecteurs de littérature de SF, de littérature en général, mais de littérature de SF. On en a beaucoup parlé. Je pense qu'on écrit plus nos BD par certains côtés comme on écrirait des romans, au sens où il y a une certaine volonté pas faire de cadeaux aux lecteurs. Il y a toujours des sortes de traces enfantines dans la bande dessinée. Hein, c'est dans l'inconscient, c'est dans la génétique de la bande dessinée initiale d'avoir été un genre pour enfants. Donc il y a toujours une petite envie de faciliter le travail aux lecteurs, etc. Et nous, on ne l'a pas toujours fait de cadeaux dans nos Il y a une ambition, voilà, qui pourrait être une ambition entre guillemets littéraire de SF, même si les moyens ce qu'on peut mettre dans un album de bande dessinée est très différent de ce qu'on peut mettre dans un roman. Il y avait cette volonté de hisser une certaine bande dessinée de genre au niveau de ce qu'on avait la littérature de genre avait pu faire. Donc on a un rapport ambigu avec la littérature. On est beaucoup plus focalisé sur la littérature que sur le cinéma, par exemple.
C'est vrai que moi, j'ai une inspiration qui vient surtout de la littérature, là, pour parler des chroniques de l'Antiquité galactique. Je me sens très proche de Van Vogt, qui écrit L'Empire de l'Atome et le Soviet Nin, par exemple. Je me souviens que sous ma vieille édition de L'Empire de l'Atome, il y avait un légionnaire romain dans un vaisseau spatial. Je l'ai retrouvé après avoir fait Le Fléau des Dieux, justement, c'est ça qui est amusant. Je me suis dit que finalement, peut-être qu'inconsciemment, c'est des choses qui me travaillent depuis l'enfance.
Travaillé, parce que j'avais dû lire même les mêmes livres.
Oui.
Et ça, c'est, voilà, c'est là où beaucoup d'auteurs de BD aujourd'hui, maintenant, en tout cas dans le grand public, pensent cinéma. Nous, on pense plutôt littérature. Et on nous dit, après, on me dit souvent, par exemple, sur mon travail, ou sur des dessinateurs plus spectaculaires, on nous parle, oh, c'est hollywoodien, etc. Mais en fait, non, pour nous, c'est pas. La référence, c'est pas Star Wars, hein, c'est pas plus pour Valérie. Si ça devait être dans un cinéma, ce serait un cinéma assez différent de celui-là. Même si, bon, bah, on est une génération Star Wars, hein, on va pas le cacher, mais voilà, c'est pas. On rechigne pas au spectacle, parce que la bande dessinée, elle a cette part-là, on est là, le grand spectacle, la grande image.
La présence de l'image, effectivement.
Voilà, c'est ça, oui, ça fait clairement partie de la bande dessinée, et depuis longtemps, même dans Tintin, quand la fusée se pose sur la Lune, les ombres étendues et compagnie, c'est des images spectaculaires, même dans le style Tintin, qui à la limite ne l'est pas tellement, quoi. Mais voilà, on est, nos références, elles sont dans la bande dessinée, dans la littérature, bien avant le cinéma, quoi.
Et au niveau du travail du scénario, notamment, comment ça se passe avec les dessinateurs
Là, il peut plus en parler que moi, parce que moi, les dessinateurs, moi, avec moi-même, ça se passe relativement correctement. Il est un peu flemmard, certains jours. Mais il fait toujours ce que je veux. Là, je dois avouer qu'il est très serviable.
Mais quand il travaille avec moi, il fait toujours aussi ce que je veux. C'est ça qui est bien.
Moi, en tant que je suis pas un dessinateur, en fait. Je suis un auteur de BD. C'est-à-dire que j'ai appris à dessiner pour raconter des histoires. Mm-hmm. Donc, même parler de scénario, dans mon cas, c'est un peu idiot. Parce que j'ai un synopsis que j'ai écrit initialement, mais l'étape du scénario, qui serait l'étape très technique du découpage et compagnie, je la fais directement en image. Donc chez moi, il n'y a pas de scénario. Il y a un synopsis et il y a une mise en scène dialoguée qui se fait en image directement. Sauf si je travaille avec Valérie sur Trois Crises.
Dans ce cas-là.
J'avais suivi vraiment. Alors c'est très compliqué, on pourra en parler après comme projet. J'avais dû suivre son canevas à la perfection. Et à l'inverse, sur Albim, on l'a coécrit ensemble. Parce que justement, elle a travaillé avec moi au moment de cette étape mise en image, etc. Donc c'était assez rigolo. Elle a pu participer pour une fois à une écriture en dessin, ce qu'elle ne fait pas habituellement.
Voilà. Non, c'est la première fois, la seule fois que je l'ai fait d'ailleurs. Parce que c'était possible, parce que Denis et moi, on travaille dans la même pièce. Parce
qu'on couche ensemble même parfois.
Parce qu'on couche ensemble même parfois. Donc on dort, on mange et on travaille dans la même pièce. Et là, effectivement, donc j'ai pu suivre au jour le jour, minute par minute, son travail. Évidemment, quand j'ai un dessinateur comme Jean-Michel Ponzio sur Expérience Mort ou Thierry Desmarais sur Alix, qui habite, à l'autre bout de la France. L'autre bout de l'Internet, c'est plus compliqué. Je dois leur envoyer un scénario entièrement écrit, découpé case à case avec les dialogues, les décors, les intentions, les lumières, etc. Et eux me renvoient un storyboard sur lequel on discute, mais je ne les vois pas faire, en fait. Eux acceptent mon scénario, je veux dire, fini, et j'accepte leur storyboard fini aussi. Quoi. Après, on discute sur des documents déjà achevés. Quoi. Il y a pas de...
T'as des scénarios assez précis, parce que j'en ai vu pas mal. J'ai peut-être vu plus de scénarios de scénaristes que toi. T'as des scénarios assez précis, assez directifs. Tu sais bien ce que tu veux, souvent en termes de cadrage, etc. Et tout. Même si après, tu es très ouverte à discuter avec les dessinateurs, mais Valérie a une écriture assez dirigiste, mais dans le sens, ça plaît bien aux dessinateurs parce qu'ils sont tranquilles, quoi.
Ils savent où ils vont aussi.
Voilà, ils peuvent s'appuyer très fortement.
C'est vrai que j'essaie de les guider. Après, j'essaie de rester ouvert à toutes leurs propositions. C'est-à-dire que pour moi, le scénario, c'est pas un document gravé dans le marbre une fois pour toutes. Toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre, quoi. Si un dessinateur a des idées de cadrage, de mise en scène, ça peut être entièrement écrit, le réécrire sans moi, j'allais dire, et puis me proposer des choses, il n'y a aucun souci, quoi. C'est vraiment jusqu'à ce que ce soit imprimé, tout peut être refait. Alors ça, les dessinateurs n'aiment pas refaire en général parce que c'est énormément de travail. Bon, c'en est quand même un peu moins pour moi de refaire un dialogue ou de refaire une mise en scène. Et c'est vrai que j'aime bien ça. J'aime bien l'idée que rien n'est jamais totalement abouti, qu'on peut toujours faire mieux, en fait.
Oui, je pense que si tu avais le temps, tu referais les bouquins 10 fois pour que ce soit parfait.
Mais je pense que ça doit être valable à peu près pour tous les auteurs. Il y a toujours des choses qu'on voudrait reprendre ou des choses qu'on voudrait.
Même en littérature, on peut le faire plus facilement parce qu'on n'impose pas la réécriture à un autre.
Voilà, c'est
alors qu'en bande dessinée, écoute, cher ami dessinateur, tu vas repasser 3 jours sur ta page parce que j'ai changé d'idée. Voilà. C'est impossible à envisager. Quoi.
Effectivement. Ça fait aussi partie du.
C'est le petit côté industriel de la bande dessinée fait en collaboration. Ce qui n'est pas mon cas, puisque moi je peux décider de m'infliger cette torture-là, ça m'est déjà arrivé. Mais dès qu'il y a deux collaborateurs, il faut accepter qu'il y a une petite, déjà, part industrielle qui se met en place. Il faut un schéma de travail. On doit respecter le travail de l'autre. Parce que c'est délicat de demander de tout refaire parce qu'on s'est trompé soi-même.
Voilà, c'est ça.
C'est arrivé une ou deux fois. Avec des dessinateurs très impliqués qui eux-mêmes avaient senti le... Alors, c'est toujours arrivé qu'au moment du storyboard, mais avec des travaux de storyboard qui avaient pris du temps déjà, et ils ont accepté de rejouer le jeu.
Tout à fait.
Parce qu'eux-mêmes, en le lisant, sentaient que c'est vrai qu'après, il y a différents
types de dessinateurs. Et c'est vrai qu'il y a des dessinateurs qui aiment extrêmement guider, en fait, qui suivent vraiment le scénario, ligne à ligne, j'allais dire. Qui ne prennent pas d'initiative dans la mise en scène, plutôt dans le dessin, dans le décorum, dans des choses comme ça. Et d'autres, au contraire, qui sont très impliqués et qui proposent systématiquement. Et c'est vrai que c'est plus facile de demander des choses à refaire à ceux qui proposent systématiquement, en leur disant, bon, c'est un processus qu'on suit tous les deux, plutôt qu'à celui qui a suivi strictement ce qu'on disait. Et on lui dit, écoute, finalement. Bon, tu as fait tout ce que je t'ai demandé, mais ça va pas, quoi.
En même temps, faut se mettre à la place de Valérie, se projeter sur la planche finie, sur les dessins faits, même quand on connaît bien le style d'un dessinateur, c'est pas du tout évident.
C'est très abstrait, un scénario.
C'est déjà pas évident quand on est soi-même dessinateur, de au moment où on fait le storyboard, d'équilibrer les cases, etc. Mais elle le fait de manière mentale en décrivant ça avec des mots. On est dans un exercice qui est assez abstrait, en fait. Le scénariste devant dessiner, c'est un drôle de métier.
Ce métier présent, en même temps, on est souvent surpris par le dessinateur, par la façon dont il peut interpréter ce qu'on dit. Mais c'est que dans le bon sens, si on a bien choisi son dessinateur.
Mais ça peut être comme si vous écriviez le scénario de film et faisiez son storyboard en même temps pour déjà tout préparer et tout. Ils sont à la fois le scénariste et le metteur en scène de la circonstance du film, avant que le metteur en scène en image. Directeur de la photo et directeur d'acteur, enfin termine le travail qui est le dessinateur. Donc c'est un truc bizarre. Les gens devraient essayer d'écrire un scénario de bande dessinée, ils vont voir, c'est très bizarre.
Et les nouvelles technologies, qu'est-ce qu'elles ont apporté à votre métier, enfin à vos métiers
Je peux répondre en premier, là, parce que moi, ça m'a quasiment rien apporté, si j'ose dire. Taper sur un ordinateur ou taper sur une machine à écrire, bon, ça change pas grand-chose. C'est plus pratique.
T'as échangé les bugs de Word contre les problèmes de retaper à la machine. C'est plutôt mieux.
Oui.
Donc c'est très limité.
Internet. L'échange avec les dessinateurs, le fait de pouvoir échanger les bords, de voir très rapidement.
Quand j'ai commencé le Fléau des Dieux, on était au balbutiement d'Internet. On a commencé à bosser avec Internet, mais au tout début, on s'écrivait manuellement, j'allais dire, et j'étais 15 jours à recevoir ces lettres. Alors évidemment, quand on est passé à Internet, là c'était instantané, ça a été totalement autre chose. Ouais,
c'est clair. Il faut dire qu'il était en Serbie. Moi j'ai connu l'époque des échanges de fax avec mon scénariste. C'était bien, les dessins, les storyboards, qui sont déjà parfois assez brouillons, envoyés en fax, avec le scénariste qui rappelait en disant « Je n'ai vraiment pas compris ta première case, et c'est un éléphant qui court vers une batterie de cuisine ou le Titanic qui coule ?» Donc c'était... là, aujourd'hui, il y a une facilité de communication, on peut même faire des... On est sur un projet commun tous les deux avec un dessinateur, et on fait des grandes réunions Skype, on peut prendre, à la limite, le stylo sur l'écran de l'autre et monter des trucs, ça c'est le côté que le travail collaboratif est évidemment énormément amélioré.
Ça n'a rien à voir avec le travail de dessinateur tu es passé tout entièrement en numérique.
Voilà, moi il y a une bascule énorme parce qu'en fait j'ai été un des tout premiers dessinateurs à basculer 100% en numérique. C'est quelque chose que j'ai tenté depuis, on va dire, 1990 avec Photoshop 1. Quand je suis retourné aux Arts Déco, ils venaient de rentrer leur premier Mac. École très riche à Paris, donc ils pouvaient se payer une dizaine d'ordinateurs, c'est l'équivalent du PIB d'un petit état africain à l'époque. Sur ces premiers Mac, il y a ce petit logiciel qui est arrivé qui s'appelait Photoshop 1, puis 2. Et très vite, on a eu même une première tablette Wacom qui arrivait du Japon, c'était japonais. Et alors les tablettes, les tablettes où on avait une surface, on avait un stylet, et quand on dessinait sur cette surface, à l'écran, ça se reproduisait. Mais c'est les tablettes Wacom qui avaient été conçues pour dessiner de la calligraphie japonaise. Les Japonais, je crois, à l'époque, se refusaient à abandonner la calligraphie à cause de l'informatique, donc ils avaient tout de suite cherché un moyen de faire de la calligraphie sur écran. Et donc, comme c'était prévu pour reproduire la calligraphie, c'était capable de reproduire les pleins, les déliés, les inclinaisons. Il y avait déjà tout ce qui était nécessaire au pinceau, au travail du pinceau qui était là. Et moi, je m'étais immédiatement dit, c'est un outil parfait pour dessiner, pour ancrer au moins, puisque c'est un outil de pinceau. Donc j'ai dû faire ma première mise en couleur, en 91 ou 92, comme ça, sur Photoshop. Alors le genre de travail, le fichier final faisait 20 mégas, donc il fallait 20 disquettes pour l'amener à l'imprimeur. On a oublié. Donc pour extraire 20 disquettes, il fallait à coup de 5 minutes, peut-être pas, mais 3 minutes par disquette, il fallait une heure. Et pareil pour les remettre sur le disque dur de l'imprimeur, enfin une autre époque. Mais j'ai essayé, et j'ai continué à tenter de faire ça, et j'ai vraiment lutté. Je suis arrivé à un moment où vraiment je me suis dit, j'y arrive pas. Et c'est assez amusant parce que Jean Giraud, Moebius, cherchait de son côté, on se connaissait un peu, et m'a attrapé dans un festival en me disant, Denis, il faut que je te parle, je suis en train de me battre avec mon ordinateur, j'arrive pas à dessiner dessus. Je comprends pas parce que bon, je sais quand même servir d'une plume, d'un pinceau. Et là, je bloque, je n'arrive pas à sortir un bon trait, etc. Et on a discuté un peu. J'avais déjà un peu expliqué comment paramétrer des trucs avant, donc il n'y a pas de problème technique. Je lui dis, écoute, moi j'ai le même problème, je pensais que c'est parce que j'étais nul. Mais bon, toi, j'étais le padawan de la BD, quoi, mais lui c'était le maître Jedi, quoi. J'étais censé pouvoir vaincre ça. Il encre au pinceau, les yeux fermés, dans le noir, la tête en bas. Enfin, c'était... Et en fait, on avait du mal à trouver ce pantographe mental, parce que vous voyez, à l'époque, on dessinait avec la main d'un côté et on regardait avec l'écran de l'autre. Et les terminaisons, enfin le système dans le cerveau, les connexions ne se faisaient pas. On se souvient tous du mal qu'on a eu à maîtriser une souris au démarrage. Regarder le curseur et avoir la main qu'on dégosse, il y a un petit moment de puis on y arrive. Mais là, on est en train de parler de faire ça avec un million de précisions en plus. Et en plus, avec des gestes qu'on a appris à faire complètement autrement, qui sont des gestes très sophistiqués. Faire un rond à main levée, c'est un exercice courant pour un dessinateur, c'est un cauchemar déjà sur un papier, mais là, on devrait réapprendre à faire ça, et puis à redessiner de manière très instinctive, très rapide, sans réfléchir à nos gestes, sur quelque chose comme ça, où on ne regardait pas sa main, alors que jusqu'à là, on avait tous regardé notre main. Et en fait, on était tombés d'accord, je ne sais pas, c'était en 97 peut-être, ou en 96, on était tombés d'accord que jamais on n'y arriverait. Et j'ai basculé par hasard en 2002. Parce que j'ai continué à essayer. Alors je faisais, mais on était passé à la couleur en informatique. Parce que la couleur en bande dessinée, elle est contenue par le trait. Donc la précision est approximative. Donc là, on arrivait à faire quelque chose. Et j'ai un ami que j'ai dépanné sur ses couleurs à la fin de son album. Et il n'avait pas terminé complètement les cases sur le bord. Et au moment de la coupe papier, on aurait risqué de manquer. Donc je veux dire, c'est idiot. Et j'ai commencé à prolonger le dessin en noir et blanc de ses cases. Et je me suis aperçu soudainement que chez moi, j'étais en train d'imiter le style d'un copain. À l'ordinateur sans me poser de questions. Et en fait, pendant ces 3-4 années qu'on suivit, les connexions sont enfin faites. Et le soir même, j'ai tenté de faire une planche en Universal War, et j'ai basculé en fait. Et depuis, j'ai plus de table à dessin, plus de papier. Voilà, c'était 2002, je dirais, dans ces eaux-là, parce que c'est un peu après le 11 septembre, parce qu'en plus, c'est assez étonnant, pendant le 11 septembre, j'étais en train de dessiner la scène de destruction de New York, qui est dans le Universal War tome 4, où il y a destruction de New York. Et les tours se sont tombés sur ma télé avec ces pages-là posées sur mon bureau. C'était assez angoissant parce que je faisais une BD catastrophe par certains côtés, de la SF catastrophe, et d'un seul coup je me suis dit, mais à quoi tu joues? Est-ce que toi et les petits comptes de ta génération, vous n'êtes pas en train de nourrir les prochains gros films à budget d'Hollywood qui eux-mêmes vont servir de plan d'attaque au prochain Ben Laden? Parce que Ben Laden, quand il attaque les deux tours, évidemment, il fait du Hollywood. Il a bien compris la force symbolique des images, etc. C'est une attaque hollywoodienne. Et c'est pour ça qu'elle a si bien marché dans les médias, que ça continue d'être un score sur YouTube. Quoi. Voilà, et moi, je me suis vraiment posé la question de ma responsabilité. Non pas que je fais ça pour des bonnes raisons, parce que Universal War One a pour but de prévenir contre notre imbécilité en tant qu'espèce, etc. Mais en même temps, si on pourrait prévenir, je donne les plans de la machine à détruire la planète à quelqu'un, c'est très bizarre quoi, comme sentiment. Et j'avais quasiment arrêté de dessiner à cause de ça pendant des mois. Et c'est amusant, c'est que ce déclic, en dépannant ce copain, justement des choses que je faisais un peu pour m'occuper, a fait que j'ai retrouvé le plaisir de dessiner par l'informatique, et depuis, j'ai pas abandonné. Donc, j'ai des stylos dans les poches, là, j'ai dû faire deux bouts de croquis avec. Chez moi, les stylos, maintenant, ils durent 20 ans, quoi. Enfin, ils sèchent. Parce que je m'en sers plus du tout, il n'y a plus de table à dessin à la maison, les gens sont étonnés quand ils viennent à l'atelier, il y a 8 écrans, j'exagère, mais il doit y avoir 4 ou 5 ou 6 écrans devant moi, plus celui de Valérie derrière, et il n'y a pas de table à dessin. Quoi. C'est...
Comme il n'y a plus de machine à écrire,
Oui, mais on s'y attend plus.
C'est vrai.
Mais ceci, on devrait retirer le Mac quand les gens arrivent et mettre une machine à écrire, ça ferait poète, genre, et un chandelier.
Il y a toujours, je pense qu'il y a toujours une espèce d'imaginaire autour de... Enfin, c'est tous les clichés, les images qu'on a autour d'un
fantasme autour de l'écrivain ou du créateur.
Voilà, ou comme dans les bibliothèques, où on imagine le vieux bibliothécaire au milieu de ses livres poussiéreux.
Alors voilà, écrire des romans policiers, il faut fumer la pipe, on pouf pouf, quoi. Enfin,
c'est un peu ça. Ouais.
Mais ça fait aussi partie du côté amusant.
C'est partie du folklore.
Moi, j'accepte de jouer le folklore, je trouve ça rigolo. J'ai été un petit garçon qui rêvait sur les bouquins, etc. Et tout. Je pense qu'il ne faut pas... Je dévoile très facilement mes secrets, mais en même temps, je cache jamais ce côté un peu magique qui reste dans tout ça. Je sais pas vraiment. Plutôt un intello de formation, mais j'ai beaucoup de mal à expliquer finalement. À une époque, j'avais des explications sur tout mon travail, et plus le temps passe, plus je me rends compte que je comprends pas très bien ce que je fais. Il y a énormément de choses très complexes qui se passent en parallèle dans ce petit cerveau, dans ce corps, etc., qui sont pas que du domaine même de l'inconscient. Hein. Il y a même des procédures automatiques qui sont mises en place. Je parlais de ces corrections neuronales pour réussir à dessiner sur une tablette séparée. Mais plein d'autres choses comme ça dans le dessin qui se passe et dans le scénario avec le temps et tout. Et tout ça à l'arrivée donne un résultat qui, même pour moi, est assez magique en fait. Je suis agréablement surpris ou désagréablement surpris, mais j'ai plus souvent l'impression de ne pas contrôler grand chose qu'autre chose. Alors que je pense, considéré par tous mes confrères comme le contrôle fric absolu, quoi. Donc c'est assez intéressant et je cache pas aux gens qu'il y a de la magie dans tout ça. Mmh. On extire des choses d'un monde un peu qu'on contrôle pas. Voilà, on est en contact avec des dimensions bizarres et un peu obscures. Et c'est bien parce que autrement, qu'est-ce que c'est froidement ennuyeux, quoi. Si on devait penser que Bach c'est juste le résultat de parfaites mathématiques musicales, mais quel ennui, quoi. Enfin, quelle déception, quoi. Enfin, ah bon, ce n'était que ça, un algorithme un jour écrira toute la musique de Bach ou tous les disques de Justin Bieber, mais ça c'est peut-être possible. Oh. Aussi mauvais que ça un algorithme.
Oui, c'est vrai que parfois moi aussi quand je reçois un album qui sort de l'impression que l'éditeur m'envoie les premiers exemplaires, je me dis bon sang, c'est moi qui ai fait ça. En le relisant, parfois je me dis ah, c'est curieux de penser que c'est moi qui ai eu ces idées-là, c'est moi qui les ai fait. Il y a presque un sentiment d'usurpation en fait. Qu'un jour je vais découvrir que non, en fait, c'est pas moi, c'est. Je sais pas, oui.
Il y a une dimension qui nous échappe et qui fait aussi que.
On peut avoir facilement l'illusion de contrôler quelque chose dans nos vies. C'est assez rassurant, mais en fait, on est les jouets de déjà de force inconnue en nous-mêmes, à commencer, alors à l'extérieur, on n'en parle même pas. Typiquement, moi, il y a un éditeur, un jour, je me suis fâché avec lui, il m'a arrêté une série, ça s'est très mal passé, et récemment, j'ai exposé ces planches-là, des planches perdues dans un festival, et en faisant le petit texte pour accompagner, j'ai dit, mais en fait, il m'a rendu service. C'est très bizarre, parce qu'il m'a permis de me consacrer à Universal War à l'époque, en faisant ça, et le truc qui était super négatif, que j'ai très mal vécu en tant qu'auteur, est sans doute une très bonne chose pour ma vie d'auteur, donc c'est très ambigu. C'est page perdue, c'est quand même terrible, c'est 20 pages, c'est un déchirement pour un dessinateur, 20 pages qui ne seront jamais publiées. Et puis finalement, c'est sans doute bien, et ce terreau inconnu, ces pages que je n'ai pas pu montrer, elles sont montées dans mon dessin, par d'autres côtés. Je me suis rendu compte qu'il y avait des pauses en voyant ces planches-là, qui étaient revenues en Universal War. J'avais pas eu du tout conscience à l'époque, et c'est bien tout ça, quoi. C'est parce que c'est plus riche que nous, quoi. On est des gens très normaux à l'arrivée, on est un petit peu plus siphonnés, un petit peu plus on a des vies un peu plus bizarres que la moyenne, mais fondamentalement c'est pas, il y a pas des univers entre nous et nos lecteurs, quoi. Faut en effet, heureusement qu'il y a des tas de choses qui nous dépassent, qui viennent dans notre travail, quoi.
Et est-ce que vous avez d'autres projets en commun de BD
Alors pour l'instant, il y a Expérience Mort.
Oui.
Donc Expérience Mort.
Voilà, qu'on a co-scénarise tous les deux.
Co-scénarise. Mm-hmm. Parce que c'est une idée qu'on a eue tous les deux, je ne sais même plus comment.
C'est une idée qu'on a eue comme ça. Enfin, on l'a développée par ping-pong ensuite, tous les deux.
Je ne sais même plus comment elle est venue celle-là. Mais.
On aime beaucoup Jean-Michel.
Voilà, c'était. Alors Jean-Michel Ponceau fait partie des gens qui avaient fait un essai sur une éventuelle reprise d'Universal War à l'époque où j'étais tellement cassé au niveau du dessin que je me posais la question. Et j'étais toujours resté sur le regret de ne pas avoir bossé avec lui. C'est quelqu'un de très sympa qu'on aime beaucoup. Et donc, il a un travail brillant. Oui. Et c'est comme ça qu'on a, naturellement, quand ce projet est venu, on lui en a parlé tout de suite. Parce qu'il y avait ce côté, on voulait. C'est une histoire qu'a priori ultra réaliste, à part qu'on va dans la mort. Donc, le truc qui ne veut rien dire. Donc, on trouvait rigolo que ce travail très ultra réaliste, comme ça, dérape dans une dimension imaginaire. Ça apporte une sorte de crédibilité à l'histoire. Et c'est assez gênant, je pense, quand on lit à des moments, on se dit, mais.
C'est un jeu sur les frontières, en fait, constamment.
Oui,
c'est...
tout à fait, oui. Et avec son dessin très réaliste, la frontière, elle devient très crédible. Ça provoque cette espèce, je pense, de mais où suis-je ? Donc ça, on continue, puisqu'en fait, on avait pensé un diptyque au début.
Puis on a eu une idée en le faisant
pour la suite. On s'est dit, bah, faut, bon, si ça marche, on fera la suite. ça a marché, donc on fait deux tomes à nouveau, en espérant pour les lecteurs qu'on va pas avoir une nouvelle idée. Autrement, ils vont se retrouver embarqués. Mais ils nous avaient dit deux tomes et ils ont vendu 20.
J'ai déjà commencé à y penser.
Mais non, parce que c'est une histoire qui nourrit pas mal de choses. Oui. Parce que c'est... Bah, on est justement sur ce qu'on maîtrise pas avec la mort. On en parlait un petit peu, on joue avec les bordures du fantastique.
C'est vrai que c'est des thèmes qui nous travaillent depuis longtemps.
Enfin, puis on vieillit, donc on y pense de plus en plus.
Non, non mais la religion, l'au-delà, voilà. C'est quand même des thèmes récurrents dans nos œuvres à tous les deux. Quoi. Donc c'est amusant de les...
Donc on a une grande révélation à la fin du tome 4, donc c'est vrai qu'elle peut impliquer des conséquences qui pourraient nous donner envie de continuer. Mais ça, on verra, on n'est pas dans le.
Faut que Jean-Michel soit d'accord.
Voilà, et puis on est en train d'écrire un autre projet, mais on ne peut pas en parler pour un jeune dessinateur brillant. En train de se faire remarquer et là qui est une histoire assez épique
Ça, on en parlera l'an prochain ou celle d'après,
qui est pas vraiment la science-fiction,
non c'est plus oui, c'est...
qui est plus ouais, bien plus inattendu dans notre
c'est difficile de... d'en parler sans spoiler en fait,
voilà, donc, donc prend date pour dans quelques temps,
ouais, alors, voilà, mais là. C'est ouais, on est en train d'essayer de faire l'album qui nous aurait fait méga triper à 15 ans,
oui,
je pense,
c'est ça, oui.
Voilà. Mais pour les gens de les 15 ans aujourd'hui, on est au courant qu'ils ont des téléphones portables. Hein, mais
il n'y a pas de téléphone portable dans la série.
Voilà, non, il n'y en a pas. Mais c'est vraiment, c'est une histoire qui est en résonance avec tous les trucs qui font triper quand on est ado. Mm-hmm. Quoi. Et on a vraiment essayé
c'est vraiment,
de.
C'est vraiment épique.
Voilà, on essaie vraiment de faire ça. Voilà, et on essaie de la préparer en plus pour à la fois pour le marché américain, pour le marché français. On tente un truc un peu en Atlantique avec ça. Ça va être assez drôle si on réussit. Voilà.
Très bien, ben merci à tous les deux pour tous ces enseignements.
Nous avons été très bavards encore une fois.
Et on a très peu parlé d'expérience pour finalement.
Et voilà. Ce sera l'occasion d'un autre entretien dans ce cas-là, à ce moment-là, pour la sortie du tome 3.
Ouais, je ne vais pas parler de Rayon Poursidard en plus.
Ah bah oui,
et Rayon Poursidard aussi, c'est vrai.
Ouais, ton actualité récente.
On parlait de notre attrait pour la littérature, mais c'est vrai que Vulle, par exemple, c'est un auteur que j'avais adoré étant adolescente, mm-hmm. et quand j'ai été contactée par Comics Bureau pour l'adapter en BD, ça avait été une évidence. Quoi. C'est des choses qui marquent comme ça.
Oui, donc c'est présenté comme une évidence, Stéphane Vulle, il fallait
le faire, oui, c'est ça. J'avais lu en série, New York, enfin...
Et comment ça s'est décidé sur justement Rayon pour Sidar, du coup ?
En fait, le livre que j'avais lu étant jeune avait déjà été optionné par d'autres auteurs.
Mm-hmm. Les méchants.
Les méchants, exactement. Les vilains. Mais je me suis dit, bon, c'était quand même dommage de ne pas en faire un. Et donc j'en ai lu plusieurs. J'ai lu Piège sans Arcas et puis Rayon pour Sidar et je ne sais plus. Retour à zéro, je crois.
Et côté colonialiste,
voilà,
bizarre,
celui, bouquin, qui, ouais. Voilà, celui qui m'a le plus plu, que j'ai le plus envie de traiter, c'était Rayon pour Sidar, vraiment pour sa vision colonialiste en fait. Mm-hmm. Parce que Vulle disait toujours qu'il faisait pas de politique, mais quand on lit ses romans, on se rend compte qu'il vraiment.
Ils sont de leur temps.
Voilà, ils sont de leur temps, il est pleinement intégré à son époque, il a la vision d'un homme de son époque. Et c'est vrai que le roman date de 57, et ça m'amusait, moi qui écris en 2015, qui suis, on va dire, plus à gauche que lui, mais bon, parce que encore une fois, je suis en 2015 et lui en 57, donc c'est différent.
Bah,
c'est amusant de montrer ce décalage.
C'est un roman humaniste qu'il écrit à cette époque-là, et on voit bien que l'humanisme d'une époque peut nous paraître un peu dépassé aujourd'hui.
C'est ça.
Et c'est quelque part même accepté de. Parce que c'était un vrai humaniste, donc voilà, c'est de retranscrire dans un humanisme d'aujourd'hui des questions d'aujourd'hui par rapport à tout ça.
Les questions de, oui, le rapport avec colonialiste, colonisé, homme-robot même, c'est toutes des questions qui restent actuelles finalement.
Quand ils ont retrouvé Olivier Ossivatine,
un vieux copain, puis Manu Civiello, c'est pareil, que je connaissais depuis 15 ans, j'avais jamais eu l'occasion de travailler avec lui, donc c'est pareil, quand j'ai lu le roman, j'ai immédiatement pensé à son dessin. Quoi. Mm-hmm. Après, je me suis dit, il sera jamais libre, donc je l'ai oublié, puis on s'est recroisé à Angoulême, et Denis m'a dit, mais pourquoi tu ne lui demandes pas ?
En fait, pour être précis, il en avait parlé avec Olivier Ossivatine, etc., et Olivier a fait, mais c'est incroyable, on vient de discuter et tout. Allô.
Donc c'est une bonne chose puisque du coup on a comme ça une adaptation un peu plus moderne en fait de...
Oui, la fin du tome 2 est particulièrement éclairante par rapport au récit.
Dans le tome 1, j'essaie de rester vraiment dans le ton de 57.
Mm-hmm. Tintin au Congo quoi.
Un peu Tintin au Congo. Enfin, on voit quand le héros Laurin traite les Sidariens, c'est un peu. Il traite comme des grands enfants sympathiques.
Il est très gentil avec ses grands enfants sympathiques.
Il est paternaliste, on va dire.
C'est paternaliste.
Mais, mais dans le tome 2, on voit que le robot, lui, il a pas l'intention de se laisser traiter comme ça. Il revendique sa liberté.
Le robot a compris la condition des coloniaux et des robots qui est la même, finalement.
À libérer tout le monde, en fait.
Ce qui n'est pas dans le roman.
C'est
là,
pas dans finalement. Le roman, oui.
Et c'est l'intérêt aussi d'une adaptation, c'est de pas non plus forcément... C'est de respecter aussi quelque part l'esprit et...
En plus, on peut être sûr que Vuhl aurait été très enchanté de faire cette transposition et cette réflexion-là.
Je pense qu'il aurait dit, à notre époque.
Il aurait dit, mais bien sûr, enfin, voilà, c'est un vieux roman. Quoi. Nous espérons qu'on va vivre longtemps et qu'on se fera ringardiser par des jeunes qui nous expliqueront à quel point on était des vieux réactionnaires. Ça voudrait dire surtout que la civilisation a continué à aller vers le progrès et pas reculer comme on le sent parfois aujourd'hui.
Effectivement. Mais ce sera le mot de la fin peut-être pour cette fois, et puis au plaisir de vous retrouver dans vos prochains albums et pour d'autres entretiens éventuellement.
Et merci à TSF, on vous lit.
Merci.